Le chemin de fer de l'impossible. Un texte de Nicolas Fonov. Édition originale, mai 2025. Musique composée, interprétée, arrangée, enregistrée par Jack Stark. Copyright 2025, tout droit réservé, déposé à la Suiza. Voix, Luvoise, Ariane. L'histoire de la ligne de chemin de fer. Au début du XXe siècle, la ville de San Diego, aux États-Unis d'Amérique, était quasiment isolée du reste du monde. Son environnement désertique rendait difficile l'acheminement des marchandises. Située en cul-de-sac, la ville est bordée par l'océan à l'ouest, le Mexique au sud, des déserts à l'est et le reste de la Californie au nord. Les dirigeants locaux ont donc cherché à obtenir une ligne de chemin de fer direct pour soutenir l'armée, développer les importations et étendre le commerce. 1905. Edward H. Harriman explore l'Imperial Valley à la demande du président Theodore Roosevelt, qui souhaite utiliser la Southern Pacific Railroad pour transporter des rochers afin d'endiguer les crues du fleuve Colorado. Ces inondations menaçaient alors le Salton Sink, dépression géologique située dans le sud de la Californie, aux États-Unis, au niveau de l'Imperial Valley. Lors de cette mission, Harriman découvre le potentiel de développement de la région de San Diego. Cette révélation fait de lui l'un des principaux financiers discrets du projet ferroviaire local. Initialement, la San Diego and Arizona Railroad, SDNA, devait relier directement San Diego à Yuma, un trajet si audacieux qu'on le surnomma l'impossible Railroad. Cependant, les plans furent modifiés pour connecter la SDNA à la Southern Pacific via la ville d'El Centro, simplifiant ainsi le tracé. De même, l'itinéraire prévu à l'origine passant par Dulzura, entièrement en territoire américain, fut révisé pour contourner le Mexique. Le nouveau trajet empruntait désormais Tijuana et Tecate en Basse-Californie, réduisant ainsi les coûts et les complications logistiques. 1906. Les journaux locaux titrent « La ligne San Diego-Yuma est en bonne voie ». Ce projet devient réalité grâce à un consortium d'investisseurs influents. John Diedrich Spreckel, mania de l'industrie sucrière. Son frère Adolf B. Spreckels. William Clayton. Harry L. Titus, figure clé du développement local. Mais, derrière ces noms se cache un acteur discret, mais décisif et puissant, Edward H. Harriman. Ce baron des chemins de fer, à la tête de l'Union Pacific et de la Southern Pacific, tire les ficelles en coulisses. 7 septembre 1907. Un coup de pioche historique marque le début des travaux du chemin de fer de l'impossible. San Diego, alors en plein essor, affiche une croissance démographique spectaculaire. Sa population a été multipliée par 7 depuis 1873. Elle atteint désormais 35 000 habitants. Cette expansion fulgurante renforce l'urgence du projet ferroviaire afin de désenclaver la ville. 1907 à 1909. Le projet ferroviaire de Carrizo Gorge dut affronter des défis titanesques. Un terrain extrêmement accidenté, pente à 45% par endroit. Des intempéries répétées, inondations, glissements de terrain. Des actes de vandalisme réguliers. La grave crise financière de 1907 qui mit le projet en péril. Le décès d'Edward Harriman en 1907 porta un coup dur au projet. Mais John D. Spreckel parvint à le relancer, grâce à son réseau et sa détermination. 1907 à 1919. Pendant 12 ans, ingénieurs et ouvriers accomplirent l'impossible. Nivellement de 42 km de voies en canyon. Excavation de 17 tunnels dans le granit. Construction de 14 ponts vertigineux. La ligne passe par le Mexique, Tijuana, Tecate, Campo, Tecate Divide, Hyde Pass, qui culmine à 1118 mètres d'altitude, les Carrizo Gorge, dans le désert, et se termine à El Centro. Quelques chiffres clés. 2000 ouvriers simultanément sur le chantier. 3 millions de tonnes de granit excavées. Coût final, 18 millions de dollars américains, soit environ 500 millions aujourd'hui. Entre Campo et le désert, la voie ferrée accomplit des prouesses techniques. 1. Viaduc de Campo Creek. Hauteur vertigineuse de 56 mètres. Franchis le canyon avant d'atteindre High Pass, porte d'entrée des Carrizo Gorges. 2. Traversée des gorges. Entre parenthèses, section la plus périlleuse. 17 tunnels taillés dans la roche longs de 61 à 792 mètres. 3. Viaduc de God Canyon. Entre parenthèses, structure en bois remarquable. Finalement, la voie s'enfonce dans les étendues désertiques. 4. Viaducs latéraux suspendus à 274 mètres au-dessus du ravin. Pente maximale, 2,2%. Lacet serré à 20 degrés sur 18 km de parcours. 1911. Alors que la construction atteint son paroxysme, un nouveau défi révolutionnaire émerge, avec. En février 1911, la fondation du Comité impérial mexicain, groupe révolutionnaire opposé au régime de Porfirio Diaz. Le tronçon mexicain de la Desert Line qui devient une cible stratégique, symbole de l'influence américaine. Ces événements provoquent des impacts opérationnels, comme des attaques répétées sur les convois ferroviaires, sabotage de voies, pillage. Des ouvriers kidnappés pour rançon entre Tecate et Mexicali. Des retards cumulés de 6 mois sur le calendrier initial. L'embauche de 300 gardes armés pour protéger les chantiers. Des négociations secrètes avec les codillos locaux. Un détournement temporaire par El Centro pour les trains prioritaires. 47 attaques documentées entre 1911 et 1913, selon les archives de la Southern Pacific. Ce comité préfigure les forces villistes de la Révolution mexicaine des années 1910 à 1920. 1912. John D. Spreckels se retrouve au cœur d'une tempête judiciaire. La Southern Pacific Railroad l'attaque en justice, l'accusant de détournement de fonds secrets. Versés par Edward Harriman, ils étaient initialement destinés au développement du San Diego and Arizona Railway. Ils avaient permis de sauver le projet lors de la crise de 1907. Le montant contesté, 2,3 millions de dollars américains, soit un équivalent de 60 millions de dollars américains aujourd'hui. En 1916, après 4 ans de procédure, les tribunaux rejettent finalement les accusations. Spreckel s'est blanchi, mais le scandale aura entaché sa réputation. 1915. Face à une sécheresse persistante, la ville de San Diego engage Charles Hatfield, un célèbre faiseur de pluie. Ce dernier, sûr de lui, déclare qu'il ne sera payé qu'en fonction de l'eau apportée. Il installe son dispositif au lac Morena. Ce sera l'origine insolite du désastre de janvier 1916. Janvier 1916. La catastrophe surnommée Hatfield Flood frappe San Diego. C'est la pire tempête pluvieuse jamais enregistrée à l'époque. Elle ravage la région et une section majeure de la voie ferrée est emportée par les eaux. L'ironie du sort, les pluies torrentielles commencent effectivement, mais ne s'arrêtent plus, entre le 10 et le 20 janvier 1916. Elle sera suivie d'une seconde vague, du 20 au 27 janvier. Bilan de la catastrophe. Des voies ferrées et ponts emportés. Des lignes téléphoniques coupées. Des fermes et habitations détruites. 2 barrages ont cédé. De nombreuses victimes sont à déplorer. Épilogue amer, la ville refuse de payer Hatfield, accusé d'avoir provoqué le désastre. L'événement restera gravé dans l'histoire de cette région. Le maire de San Diego contemple alors son cauchemar météorologique. Alors que les États-Unis entrent dans la Première Guerre mondiale, le projet ferroviaire subit un coup d'arrêt brutal. Le gouvernement fédéral, priorisant l'effort de guerre, suspend les financements et interrompt les travaux pour préserver les ressources nationales. Face à cette crise inédite, John D. Spreckels fait une fois encore preuve de sa détermination légendaire. Malgré le contexte difficile et la pénurie de matériaux, il parvient à maintenir le projet en vie par des moyens alternatifs, démontrant une fois de plus sa capacité à surmonter les obstacles les plus redoutables. 1919. Malgré les ultimes retards causés par l'épidémie de grippe, le rêve d'aboutissement de la ligne du chemin de fer de l'impossible devient réalité, le 15 novembre 1919. Le train spécial Gold Spike Limited, abrégé GSL, entre en gare de Carrizo Gorge sous les acclamations, marquant la fin d'une épopée ferroviaire. John D. Spreckels, entouré des dignitaires de San Diego et du Mexique, donne le dernier coup de pioche symbolique signifiant la fin des travaux. Cet instant historique consacre l'achèvement d'une ligne audacieuse de 238 km reliant San Diego à l'Arizona, après 12 années de travaux pharaoniques. Les premiers trains à vapeur de la Southern Pacific entament leur voyage inaugural entre El Centro et San Diego. Cette journée historique marque l'entrée en service commercial de la légendaire Impossible Railroad, réalisant enfin la connexion tant attendue entre l'Est et l'Ouest. Avec leurs imposantes locomotives crachant des panaches de fumée, les convois mixtes, qui transportaient à la fois passagers et marchandises, commencent leur balai régulier à travers les paysages extrêmes du Carrizo Gorge. Après 12 ans de défis techniques et financiers, le rêve de Spreckels devient enfin réalité quotidienne. 1920. Une avalanche déferle sur les voies dans les gorges. 7 août 1926. John Diedrich Spreckels, de la San Diego et Arizona Railroad, décède. 1927. La ligne est victime d'une autre grande inondation. 1930. La population de San Diego est alors de 148 000 habitants. 1932. L'un des tunnels s'effondre après 4 jours d'incendie, et un glissement de terrain en obstrue un second. Un troisième est également détruit par un autre incendie criminel. 1939. Des glissements de terrain causés par des inondations et diverses catastrophes naturelles entraînent la fermeture momentanée de la ligne, et donc des retards. 1940. La population de San Diego est de 203 000 habitants. 1941. Avec l'entrée dans la Seconde Guerre mondiale des États-Unis, la crise économique entraîne une augmentation considérable des services de transport de marchandises et de passagers. Ce trafic reviendra à la normale à la sortie de la guerre. 1950. Les premières locomotives diesel électriques entrent en service. 1951. La San Diego and Arizona Eastern Railway interrompt son service voyageurs. Ne subsiste alors plus que le transport de fret. Septembre 1976. L'ouragan Kathleen s'abat sur le pays. Il réduit à néant des sections entières de voies et emporte plusieurs viaducs principaux. Cette catastrophe naturelle, ajoutée aux pertes financières accumulées, ainsi qu'aux multiples désastres précédents, nourrit un sentiment croissant d'abandon parmi les stakeholders. Mais contre toute attente, l'Interstate Commerce Commission rejette catégoriquement une option de rénovation de la ligne en 1978, puis réitère son veto en 1984. Durant ces années critiques, la ligne subit de nouveaux revers. Plusieurs tunnels s'effondrent définitivement victimes d'incendies criminels récurrents. Le salut vient finalement du Metropolitan Transit Development Board, abrégé MTDB, qui, après le rachat de l'infrastructure, engage dès 1980 un ambitieux programme de rénovation afin de redonner vie à cette légende ferroviaire. 1979. Cette année marque un tournant critique pour la Desert Line. Le Metropolitan Transit System, abrégé MTS, négocie un bail audacieux avec la Pacific Imperial Railroad. La société obtient les droits d'exploitation contre un loyer de $500 000 tous les 6 mois, tout en assumant l'entière responsabilité financière. Cet accord ingénieux protège l'argent public. Si la Pacific Imperial échoue, MTS récupère la ligne sans avoir engagé un seul dollar d'argent public. La situation devient tendue le 1er juillet 1979, car le paiement attendu n'arrive pas. Au bord de la rupture, la Pacific Imperial invoque une lettre de la Chambre des représentants ayant semé la panique dans son conseil d'administration. Dans un rebondissement de dernière minute, un chèque de $500 000 est finalement déposé à la veille de l'échéance, sauvant in extremis l'accord. Parallèlement, MTS finalise cette même année un important partenariat de $15 millions avec un autre opérateur pour restaurer l'infrastructure vieillissante. L'autorité transporteuse acquiert 174 km de voies, dont le segment stratégique de la Desert Line, soit 113 km traversant Campo et Jacmba. Près d'un demi-siècle plus tard, l'avenir de ce bail de 99 en reste incertain, la compagnie actuelle peinant à honorer ses engagements. 1982. La ligne est fermée momentanément pour cause de dégâts créés par l'une des dites « tempêtes de l'année ». 1984. la fermeture totale de la ligne marque le début d'une longue période de stagnation. S'ouvre alors un interminable chapitre de discussions et de plans avortés. Projets fantômes, études de faisabilité sans suite, promesses non tenues. Année après année, les espoirs de réouverture se heurtent à des obstacles financiers, politiques et techniques récurrents. Il faudra attendre 2004 pour voir émerger des propositions concrètes, mettant fin à deux décennies d'atermoiements. Ces 20 années d'incertitude auront laissé le légendaire chemin de fer de l'impossible dans un étrange purgatoire, entre abandon définitif et renaissance hypothétique. 1985. Tentative originale de redynamisation, le Pacific Southern Railway Museum lance des excursions touristiques au départ de Campo. Ces parcours pittoresques, desservant Miller Creek et Tecat, permettent aux visiteurs de découvrir les paysages spectaculaires de l'ancienne ligne. Cependant, cette initiative prometteuse tourne court. L'entrée en vigueur de nouvelles réglementations de sécurité, particulièrement strictes concernant la responsabilité en cas d'accident, oblige le musée à interrompre prématurément ses excursions. Ce revers illustre les difficultés récurrentes à concilier préservation historique et exigences réglementaires modernes. 2004. La ligne connaît un nouvel élan avec l'achèvement des travaux de rénovation des tunnels 8 à 16 et du célèbre viaduc de Goat Canyon. Ces importants travaux permettent la reprise du trafic fret vers Plaster City, redonnant temporairement vie à cette infrastructure historique. Cependant, ce regain d'activité est de courte durée. En 2010, de nouveaux actes de malveillance surviennent. Des incendiaires endommagent gravement un tunnel crucial situé en territoire mexicain, compromettant à nouveau la viabilité de la ligne. Cet incident souligne la vulnérabilité persistante de l'impossible railroad face aux aléas humains et naturels. 2008. Le tronçon de la Desert Line détenu par MTS cesse le transport de fret, seulement, en raison de son mauvais état. 2009. Le tunnel Lindero est endommagé par un incendie. 2011. Carrizo Gorge Railway INC, abrégé CZRY, cesse ses activités sur le segment Tijuana, Tecat, à la fin de l'année. 2012. Cette année cruciale voit émerger un nouveau chapitre pour la Desert Line. Les autorités mexicaines donnent leur feu vert à une entreprise ambitieuse pour restaurer la ligne, mais le projet reste paralysé par les revendications financières investisseurs anciens, certains exigeant toujours le remboursement de leurs fonds. Dans le même temps, la SDNAE signe un accord historique avec la Pacific Imperial Railway Company, un bail d'exploitation de 50 ans pour le transport de marchandises, marquant la fin des droits de la CZRY. Paradoxalement, cette année qui semblait prometteuse sonne le glas définitif de l'exploitation active de la ligne. Dès lors, les discussions reprennent avec vigueur autour d'une éventuelle réouverture, ouvrant un nouveau cycle d'espoir et d'incertitude pour ce patrimoine ferroviaire légendaire. 2013. Des projets étaient en cours d'élaboration pour remettre les trains en service. 2014. Le projet ambitieux de reconstruction de la Desert Line, porté par un consortium d'entreprises frontalières, se trouve paralysé par d'interminables tensions entre les derniers propriétaires et le Metropolitan Transit System. Pourtant, cette initiative bénéficie d'un large soutien transversal. Appui politique, élus locaux et régionaux unis derrière le projet. Soutien économique, chefs d'entreprise et investisseurs convaincus. Adhésion citoyenne, responsables civiques enthousiastes. Ces partisans mettent en avant des arguments percutants. Lien industriel vital pour connecter usines automobiles et zones de production. Double bénéfice, réduction des coûts et de la pollution environnementale. Optimisation logistique, suppression des transbordements routiers frontaliers. Malgré ce consensus impressionnant, les querelles juridiques et financières condamnent le projet à l'immobilisme, laissant inexploitées des opportunités économiques et écologiques majeures. 2024. La légendaire ligne ferroviaire présente aujourd'hui un visage contrasté. À l'état d'hibernation avancée, ses voies sont aujourd'hui désaffectées et interdites à la circulation. Toujours sous la propriété du Metropolitan Transit System, abrégé MTS, la ligne est jalonnée de wagons fantômes, immobilisés, dans un silence rouillé. Pourtant, cette relique industrielle continue d'attirer les curieux. Certains sentiers de randonnée, empruntés par les plus aventureux, offre des points de vue spectaculaires sur des ouvrages d'art remarquables comme les impressionnantes structures du Carrizo Gorge. Ces expéditions improvisées n'en restent pas moins périlleuses, transformant chaque exploration en pari audacieux contre les éléments et la décrépitude. Ce chemin de fer, né dans l'adversité d'un terrain hostile et de défis sans cesse renouvelés, demeure avant tout le récit d'un triomphe humain et technique. Plus qu'une simple infrastructure, il incarne l'audace visionnaire d'une époque et la ténacité indomptable de ses bâtisseurs. À travers les figures emblématiques comme John Despréquels et son équipe d'entrepreneurs intrépides, c'est tout un chapitre de la persévérance américaine qui s'est écrit. Leur héritage nous rappelle avec force qu'aux limites du possible répond souvent l'infini des ambitions humaines. Pérennisant la mémoire de cette épopée industrielle, un tronçon spectaculaire de 113 km serpente toujours le long de la frontière mexicaine, dans le sud-est du comté de San Diego. Baptisé officiellement Desert Line Mirage Lives, mais universellement connu comme le dernier vestige de l'impossible Railroad, ce segment désaffecté conserve une aura mythique. Silencieux mais chargé d'histoire, ce corridor ferroviaire fantôme témoigne de l'audace démesurée qui anima ses concepteurs, offrant aux paysages arides du désert une étrange poésie industrielle. Sur les 18 km du seul Carrizo Gorge, la ligne concentre à elle seule 14 viaducs et 21 tunnels, révélant l'incroyable densité d'ouvrages d'art nécessaires pour dompter ce relief extrême. Portrait de John Diedrich Spreckels. John Diedrich Spreckels est un homme d'affaires américain, né à Charleston, en Caroline du Sud, le 16 août 1853. Il travaille pour son père, Klaus, qui dirige une entreprise prospère dans le domaine du sucre. 1880, il est riche entrepreneur à part entière. 1887, il visite San Diego pour la première fois, pendant laquelle il est attiré par le boom immobilier éphémère dont fait preuve la ville. 1890, il est propriétaire de l'hôtel Del Colorado. 1892, il achète le réseau ferroviaire de San Diego. Il change alors la traction à cheval par l'électrique. 1906, il s'installe définitivement à San Diego. 1908, il emménage dans son manoir de Coronado, San Diego. 7 août 1926, il meurt en portant le statut du plus riche homme de San Diego. Portrait d'Edouard Henry Harriman. Citation: je ne joue pas aux petits soldats avec les chemins de fer. Je les construis. Il naît le 20 février 1848 à Hampstead à New York, et est issu d'une famille modeste avec un père pasteur épiscopalien. Parcours entrepreneurial. Il commence à travailler comme messager à 14 ans, chez un agent de change. Il fonde sa propre société de courtage à 22 ans en 1870. Il est spécialisé dans le financement des chemins de fer. Empire ferroviaire. Il contrôle l'Union Pacific Railroad en 1898, après sa faillite. Il modernise 6000 km de voies, double les tunnels, standardise les rails. Il rachète la Southern Pacific en 1901 et crée un réseau transcontinental. Méthode controversée. Il est surnommé le « Napoléon des rails » pour ses tactiques agressives. Il est en conflit célèbre avec J.P. Morgan pour les chemins de fer. Il est accusé de monopole par Theodore Roosevelt, procès antitrust en 1907. Visionnaire technique. Électrification précoce des voies urbaines. Il crée un système de signalisation innovant. Il investit dans les ports de San Francisco et chantiers navals. Expédition scientifique. Finance une mission en Alaska en 1899 avec 130 scientifiques. Découverte majeure en géologie et biologie. Un glacier porte son nom, le Harriman Fjord. Vie privée. Il se marie à Mary Williamson Avrell, fille d'un président de chemin de fer. Il devient père de 6 enfants, dont W. Avrell Harriman, un futur diplomate. Philanthropie. Il crée un hôpital pour enfants à New York. Il lègue 80 millions de dollars américains, soit 2,5 milliards de dollars américains aujourd'hui à des œuvres. Mort et héritage. Il décède le 9 septembre 1909 d'une crise cardiaque à l'âge de 61 ans. Sa fortune estimée à 100 millions de dollars américains, soit environ 3 milliards de dollars américains aujourd'hui. Il inspira le personnage de Nathaniel Taggart dans « La grève d'Ayn Rand ». Paradoxe. Détesté par ses concurrents pour son ruthlessness. Admiré pour son efficacité et vision industrielle.